Bienvenue au podcast Tupica, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, je reçois Alexis Goujon, qui est l'animateur du podcast Parle-moi de santé, qui est physiothérapeute, qui est aussi vulgarisateur scientifique par son podcast et enseigne aussi à l'université. Bref, il s'intéresse particulièrement aux sports d'endurance, aux blessures des sports d'endurance. Puis, comme j'explique pendant le podcast, ben il m'a écrit voilà quelques semaines là, suite au podcast avec Catherine Senez, où est-ce qu'on avait fait une genre de rétrospective de tous les types de blessures dans le sport d'endurance. Puis il m'a dit « Hey, je pense que je pourrais ajouter à cette conversation-là. » Bref, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On parle de certains angles morts, souvent liés aux blessures. On parle beaucoup de l'impact des souliers, minimalisme, maximalisme. On parle des traits de personnalité liés aux blessures. On parle aussi du renforcement musculaire lié aux blessures. Bref, il nous donne un peu un masterclass. C'était vraiment une superbe conversation. On a restreint ça à 4 questions. Auxquels on a répondu. Et je pense que c'est bien comme ça pour laisser un petit peu d'espace plus digeste. Et c'est sûr qu'on va refaire ça. Alexis, qui est un vulgarisateur scientifique incroyable, ça paraît qu'il y a un podcast. C'est le fun quand on parle à des gens qui ont déjà fait ça. Parce que, comme vous allez voir, moi, je peux juste poser des questions, réagir un petit peu, puis après ça, laisser toute la place à l'invité. Le podcast de cette semaine est présenté par Upica. Si vous ne connaissez pas Upica, encore, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites parce que vous écoutez le Upica podcast. Bref, c'est la compagnie, ma compagnie, où est-ce qu'on fait des suppléments pour les sports d'endurance. On fait du intra-workout, le Upica Endurance, qui est pour soutenir vos efforts, glucides, électrolytes, taurine. On fait le Upica Récup, qui est fait pour récupérer, enclencher tous les processus de récupération après vos efforts. Les critiques sont dithyrambiques, le monde capote. Et si vous voulez utiliser le code promo Upica Podcast, vous allez avoir 10% de rabais sur votre première commande au upica.ca. Sans plus attendre, bon podcast. Écoute, ça roule.
Yes, on est parti.
On est parti aussi simplement que ça. Mise en contexte pour les gens qui nous écoutent, on s'était écrit.
Ouais.
Là,
peut-être 6 mois,
un
an.
Petit bout, ouais, les choses vont vite. Moi, ça m'arrive souvent là, de comme, hey, on devrait faire de quoi? Ouais, puis là, il y a 1 million d'affaires qui se passent. Puis finalement, on se retrouve puis on se parle. Mais tu m'avais écrit suite au podcast que j'ai fait avec Catherine Senez.
Yes.
En disant, hey, je pense que le message, c'était les nombreux messages parce que tu m'as envoyé des messages vocaux. Puis c'était, hey, bon podcast, mais je trouve qu'il y a des angles morts un peu par rapport aux blessures. Puis toi, c'est un peu ta spécialité, si on veut. Puis tu me parles un peu de ton background avant qu'on en revienne à la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui.
Ouais, ben de façon simple, moi je suis physio, fait que je suis principalement clinicien, là, j'ai gradué en 2018. Fait que, tu sais, mon quotidien dans la vie, c'est de voir des patients qui ont des blessures, des douleurs. Fait que blessures musculo-squelettiques, là, les douleurs physiques, puis vraiment une clientèle très variée. Fait que je vois des sportifs, parce que moi je fais du sport d'endurance, fait que je vois du monde qui ont les mêmes intérêts que moi, mais je vois aussi monsieur, madame, tout le monde qui ont des maux de dos chroniques, tu sais, vraiment de tout. Puis avec le temps, je me suis beaucoup spécialisé en lien avec les douleurs chroniques, fait que autant chez les sportifs que chez les gens, monsieur, madame, tout le monde. Fait que ça, c'est l'aspect clinique, tu sais, je vois aussi des commotions, des problèmes vestibulaires, d'étourdissement, bref, toutes sortes d'expertises qu'on peut avoir en physio. Puis en parallèle à ça, ben, j'ai un podcast où je fais de la vulgarisation scientifique. J'enseigne un petit peu à l'université dans le programme de physio, dans le programme de médecine à l'Université de Montréal. Je fais beaucoup d'enseignement en formation continue, fait que je forme des physios, des médecins, je donne des conférences, je présente dans des congrès. Fait que, tu sais, j'ai un chapeau, disons, assez équilibré entre la clinique, le monde de la vulgarisation scientifique, le monde de l'enseignement. Puis, tu sais, j'ai un intérêt envers la recherche, fait que j'intègre ça un peu dans ma pratique.
Mm-hmm. Puis, tu parles de sport d'endurance, ta pratique de sport, ça ressemble à quoi ces jours-ci?
Ouais, ben moi, en fait, je suis un fondeur, fait que je fais du ski de fond de compétition, tu sais, sur le circuit de la Coupe des Maîtres du Québec. Fait que ça, c'est depuis en haut 10 ans. Fait que ça, c'est pas mal de septembre, mettons, à fin mars. Puis, je fais de la trail, fait que depuis 2020.
La transition naturelle de,
exact,
de fondeur
ça.
À trailer. Puis
exact.
La transition encore plus naturelle, 2020, vers la trail.
Ouais, exact. Non, c'est fou l'essor qu'a connu ce sport-là.
C'est drôle, j'en parlais justement hier avec Alexis Lepage, qui est un triathlète. L'épisode va sortir, on en a parlé pendant le podcast, okay, l'épisode cool. va sortir dans les soit avant ce qu'on enregistre là ou peut-être un petit peu après. Mais bref, ce qu'on parlait, c'est justement de l'essor majeur du trail autour de la COVID.
Ouais.
Puis après ça, parce que j'ai posé la question, juste pour reculer encore d'un pas, j'ai posé la question, comment ça se fait qu'il y a un intérêt aussi marqué ces jours-ci pour le triathlon? Parce qu'on le voit beaucoup, tu ouvres ton feed Instagram, puis tous nos influenceurs préférés, à commencer par moi, se mettent au triathlon.
Il y a un hype.
Il y a un hype autour de ça.
Mais il y a un hype pour le sport d'endurance en général.
Oui, vraiment.
Clairement.
Sauf que moi, j'ai demandé d'un point de vue triathlon, puis lui, il dit, ben, c'est parce que j'ai l'impression qu'en 2020, beaucoup de monde se sont mis à trail. Puis le chemin comme traditionnel vers le triathlon, c'est des gens qui se mettent à course, courent trop, se blessent, commencent à faire du vélo, font « Hey Chris, dans le fond, je vais faire du triathlon. »
Ouais, exact.
Fait que ça peut nous amener aussi vers notre conversation
ouais,
qu'on va avoir aujourd'hui.
Parce que, ben, de un, il y a beaucoup de blessures dans le monde de ce sport d'endurance.
Exact, là. Exact.
Fait que c'est ça, ski de fond l'hiver,
ouais.
trail l'été, je fais du vélo de route aussi,
ouais.
plus pour faire du remplissage de volume puis faire mm-hmm. des belles balades.
Ouais.
Puis je fais du beach volley. Compétitif qui a juste pas rapport avec le sport d'endurance.
Ouais. Fait que t'es un grand voilà. gars, fait que ça.
Ouais,
ça
c'est ça, sens. Exact. Fait que ça, c'est pour, plus pour l'aspect combler mon désir compétitif, technique.
Ouais, ouais,
c'est
ouais,
un
comprends.
Sport qui est très technique.
Je comprends.
Fait que ça ressemble à ça.
Fait que tout ça pour dire que tu m'as écrit pour dire, hey, je pense qu'il y a certains angles morts. Parce qu'avec le podcast avec Catherine, on allait vraiment. Je voulais faire les trois sports de
triathlon. C'est ça, un overview.
Les trucs les plus fréquents qui pouvaient se passer, les blessures les plus fréquentes qu'ils voyaient.
Ouais.
Puis je pense qu'on l'a bien fait quand même. Mais tu mentionnais qu'il y avait certaines affaires avec lesquelles tu étais soit plus ou moins en accord ou que tu trouvais qu'on n'avait pas abordé de façon assez précise ou qui méritait.
Ou qu'on pourrait apporter
nuance.
Des nuances, c'est ça. Ouais, parce que c'est vraiment ouais. tough de faire une bonne. En fait, c'est tough d'aborder toutes les nuances possibles sur un sujet. Puis tu peux pas faire ça à chaque épisode.
Ben non,
anyway.
C'est ça. Des épisodes d'une heure.
Voilà, surtout ouais. si tu fais un survol.
Ouais.
Fait que voilà, je me suis dit, crème, on peut jamais assez parler de blessures puis de douleurs.
Exact.
Moi, je suis un gars passionné de ça.
Fait que c'est ça. Fait que je t'ai demandé de me sortir une couple d'affaires que ouais. tu voulais qu'on parle. Puis on en a ciblé une couple. Puis voyons qu'est-ce qu'on a le temps d'aborder. Là. Puis une des premières choses, c'était. La différence. En fait, qu'est-ce qui, au-delà du trop de millage, trop vite,
mm-hmm.
peut créer des blessures, spécifiquement à course à pied? Ou est-ce que
ouais.
c'était quelque chose qu'on parlait beaucoup ou est-ce qu'on se disait, bon, ben, la course à pied, le plus grand facteur de blessure, c'est la quantification du stress puis de comment on va trop vite dans un stress trop élevé? Ben, écoute, je te lance là-dessus.
Ouais.
Qu'est-ce qui, pour toi, nécessite. Une nuance ou une explication un petit peu plus développée sur...
au-delà sur du trop vite, trop
au-delà,
vite.
Au-delà du trop vite.
Too
trop
much, volume, too trop fast.
Vite. Exact, c'est ça.
Ben, tu sais, puis encore là, moi, j'ai toujours tendance à challenger l'idée du trop vite parce
ouais.
que, puis tu sais, Blaise Dubois de la Clinique du coureur va vraiment mettre ça de l'avant, puis énorme respect pour Blaise.
Ouais.
Moi, je suis en accord avec la majorité
c'est
de ce
qu'il dit. C'est son cheval de bataille,
principalement. Exact. Puis il a raison parce que en général, c'est un outil qui est vraiment facile, la quantification du stress mécanique, pour faire de la gestion de blessures, de la gestion de douleurs. Mais tu sais, les études en tant que telles qui s'intéressent à regarder c'est quoi qui cause des blessures chez les coureurs ou même chez les sports en général, c'est vraiment pas si clair qu'on réussit à dire que les gens ils en font vraiment trop vite, puis que c'est ça qui cause les blessures. Fait que, tu sais, de façon générale, puis, tu sais, une des meilleures études qu'on a, c'est Jean-François Escuyer, qui est à la Clinique du coureur aussi, mm-hmm. qui travaille en collaboration avec Blaise. Lui, c'est leur leader recherche et développement. Fait que c'est lui qui gère tout ce qui passe en termes de science, en termes d'articles, qui fait la vulgarisation, qui lead leur stratégie de recherche. Ils ont fait une revue systématique. En fait, ils supervisaient une revue systématique 2021, si je me trompe pas. Puis, ils ont juste regardé, grosso modo, est-ce que les paramètres d'entraînement, ça cause les blessures? Fait que, tu sais, on regarde vitesse de course, intensité, volume, nombre de kilométrages, fréquence, etc. Même les pentes, c'est courir sur le plat versus monter, descendre. Puis grosso modo, la conclusion de cette étude-là, c'est qu'il y a juste des résultats mitigés à savoir si ça a un lien avec les blessures.
Mm-hmm.
Fait que quand on l'étudie vraiment puis qu'on regarde les études, ben c'est ça le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas capable de dire que si t'en fais trop vite, tu vas réellement te blesser. Les nuances que j'apporterais, c'est que quelqu'un qui débute dans un sport, c'est clair que ton corps n'a aucun antécédent d'adaptation mécanique au stress qui va être demandé dans le sport, tu sais. Versus si tu viens du soccer où il y a déjà de la course puis tu te mets au triathlon, tu as déjà un background sportif qui peut te permettre d'en faire un peu plus. Fait que les gens qui partent de rien, probablement que, évidemment, que le dosage est une bonne idée. De la même façon que si tu n'as jamais fait une activité X, musculation, un déménagement, on parlait de déménagement tantôt, mm-hmm. puis que là tu soulèves des divans à répétition, ben ça se peut que ce soit un problème. Fait que pour des gens qui ne sont pas habitués à un stress mécanique X, oui, le dosage mécanique progressif, c'est toujours une bonne idée. Puis moi, je le recommande aux gens, même si on n'est pas capable de prédire que ça va prévenir leurs blessures. Mm-hmm. Fait que ça, c'est le premier angle mort.
Ouais.
Puis l'autre angle mort qu'on a, c'est que des choses plus générales, plus outside the box, que des gens pourraient appeler des fois un peu plus holistiques, comme la nutrition, la quantité puis la qualité de sommeil, tous les facteurs hormonaux, les facteurs psychologiques, on va en reparler tantôt probablement, les enjeux en lien avec les traits de personnalité, les défis dans la vie personnelle que les gens ont. Tout ça, ça rentre dans le vase du stress physiologique sur l'organisme, puis ça peut faire un trop-plein des fois pour amener quelqu'un à être blessé. Fait que le classique, c'est un coureur qui vient me voir puis qui dit « j'ai absolument rien changé, mais là, j'ai une nouvelle douleur au tibia, genre un style périostite. » Puis tu creuses, puis ça fait 6 mois, il a changé de job, il y a un stress au travail, il dort moins bien, puis t'es comme « ben, t'as pas augmenté la quantité d'eau dans ton vase, mais ton vase, il a rapetissé parce que tu dors pas, puis t'es stressé. » Fait que là, tu peux avoir un trop-plein. Fait que ça, c'est le genre d'angle mort que les gens oublient, qui, à mon avis, sont souvent peut-être même des meilleures recommandations dans la prévention puis dans la gestion des blessures, mais sans oublier le dosage du stress mécanique qui est quand même optimal à faire, tu sais.
Ouais. Fait que de ce que j'entends, en fait, c'est que si t'as la possibilité et les capacités d'avoir une récupération ou une vie hors sport qui est à la hauteur de la quantité de stress que tu exerces par la pratique du sport, techniquement, tu devrais éviter les blessures à moins d'avoir un choc traumatique qui, là,
les douleurs traumatiques, c'est ça.
C'est une autre affaire.
Les douleurs traumatiques, c'est une autre affaire. Ça part. Fait que, tu sais, j'aurais tendance à être en accord avec toi, mais la seule exception, c'est qu'il y a juste l'aspect du hasard. Tu sais, des fois, je dis, genre, en anglais, là, pain makes no sense. Tu sais, la douleur a juste, des fois, pas de sens. Puis des fois, il n'y a pas de raison. Des fois, c'est juste un hasard. C'est tellement complexe ce qui explique pourquoi quelqu'un a une douleur. Puis, tu sais, on pourrait même de parler de la différence entre une blessure versus une douleur. Tu sais, c'est pas toujours associé, ces enjeux-là. Mais grosso modo, tu sais, si en général, tes facteurs plus d'habitude de vie en lien avec l'entraînement qu'on sait qu'ils sont importants pour la performance. Tu sais, tout le monde parle de nutrition, sommeil pour la performance, mais les gens en parlent un peu moins pour la prévention, gestion des blessures.
Ouais,
mais grosso modo, ce que tu nourris pour ton organisme, c'est aussi ce que tu vas nourrir pour la qualité de l'entraînement, mais aussi pour être capable de répéter des qualités dans un organisme physiologique qui va être équilibré puis qui va être bien, tu sais.
Mm-hmm. On en a parlé beaucoup de la nutrition avec Elissa Legault. Je sais pas si t'as entendu notre épisode, là, qu'elle elle a été diagnostiquée du REDS.
Exact,
dans le fond. Puis la nutrition ou du moins le manque de nutrition a causé réellement des enjeux sévères.
Exact. Tu sais, quelqu'un qui se blesse à répétition en sport d'endurance, c'est surtout des trucs comme des vraies blessures structurelles, tu sais, des fractures de stress à répétition, c'est tendinopathie à la limite, tendinite, parce que c'est peut-être un lien structurel, quoique c'est pas super clair, mais surtout, mettons, des blessures comme des fractures de stress à répétition, c'est sûr qu'il y a quelque chose de déséquilibré entre la part de récupération puis la part de dépense. Fait que, tu sais, tout l'enjeu autour du REDS est vraiment plus abordé maintenant. Les professionnels de la santé sont mieux formés, mais c'est encore méconnu puis peut-être pas géré de façon optimale encore.
Mm-hmm. Donc, pour les fractures de stress, qui est probablement le truc... du moins la blessure la plus fréquente en course à pied. Là,
pas si fréquent tant que ça.
Ah non?
Non, c'est genre 5-10% des blessures.
Ah ouais, OK.
Ouais, fait que, mais c'est
la plus grave, j'imagine?
Quand t'es dans les fractures de stress à haut risque, parce que t'as deux types, t'as les fractures de stress à bas risque puis à haut risque. Puis la seule différence, c'est qu'il y a certains os dans le corps que quand il y a une fracture de stress, sont moins bien vascularisés puis ils peuvent mener à des complications comme un os qui va réellement comme devenir une fracture plus... comme complète, là, ou avoir un os qui va moins bien guérir parce qu'il est moins bien nourri par le sang. Fait que eux, c'est les plus sévères, mais les fractures de stress à bas risque, on gère ça comme une tendinopathie, une tendinite, une entorse de cheville, t'sais, c'est une quantification du stress mécanique, puis récupérer l'ensemble de ce qu'il faut faire pour revenir à la normale.
J'aime ça donner habituellement des conseils ou des trucs,
des
points pratico-pratiques aux auditeurs, mais je sais qu'en vulgarisation scientifique, c'est rare que la réponse est claire, puis que tu sais, il y a une recommandation claire à donner. Puis je sais aussi que les vulgarisateurs scientifiques veulent pas nécessairement trop se mouiller parce que la critique vient vite du milieu scientifique. Si tu donnes des conseils, on n'embarquera pas là-dedans nécessairement, mais on le voit beaucoup sur des scientifiques qui ont une tribune. Il y a un gros backlash parce qu'ils prennent la chance, ou du moins
Ils osent.
Ils osent donner des recommandations.
Mais il y en a qu'on peut donner quand même.
Il y en a qu'on peut donner. Ouais. Mais où est-ce que je voulais en venir, c'est si vous développez des blessures essentiellement, puis que vous croyez que la seule raison, c'est que vous êtes allé trop fort, trop vite, ben vous pouvez regarder aussi ailleurs dans exact. Votre vie pour expliquer ces affaires-là.
Ouais.
C'est ça, dans le fond.
C'est toujours, puis tu sais, c'est pour ça tantôt j'ai parlé de l'image du vase, parce que dès que les gens comparent la douleur ou la blessure à l'image d'un vase qui est trop plein, tu es capable de gérer les deux facteurs qui sont dedans, soit le vase, la grosseur du vase ou la quantité d'eau. Fait que tu sais, quelqu'un qui a une nouvelle douleur qui apparaît, là, tu sais, la première chose que j'ai tendance à leur dire, c'est comme, est-ce que ça a vraiment un impact significatif sur tes activités, puis sur ton sport, sur ton entraînement? Sinon, c'est juste là, puis c'est gossant, fais juste continuer. Parce que on a beaucoup de recherches qui nous montrent à peu près partout dans le corps que les nouvelles incidences de douleur disparaissent tout seuls sans rien faire dans genre 75-80% du temps. L'enjeu, c'est que tous ceux qui parlent de leurs blessures, c'est ceux pour qui ça part pas.
Ouais.
On appelle ça un biais de sélection ou un biais du survivant. T'sais, les gens qui gardent la douleur, c'est eux qui vont en parler. Ouais. Mais pour chaque deux personnes qui vont t'en parler de leur douleur à l'épaule, à la natation, t'en as huit autres que c'est apparu, ça a duré trois semaines, ils ont continué en gérant leur volume, puis pouf, c'est parti tout seul.
Ouais.
Ça, c'est la première chose que je leur dirais. S'il n'y a rien de majeur, continuez. Puis après ça, ben, essayez d'analyser. Y a-t-il des choses comme dans mon entraînement que j'ai changé de façon dramatique? Puis moi, j'essaie vraiment de cibler sur l'aspect comme changement significatif. Parce que les paramètres d'entraînement, si tu as fait, je sais pas moi, prenons la course à pied, tu fais genre 40-50 kilos semaine, puis tu montes à 50-60. Tu sais, pour quelqu'un qui est entraîné, qui fait ça depuis 6 mois, 12 mois, puis qui a des blocs d'entraînement, c'est rien, là. Ouais. Tu regardes dans l'ultra, les gens, ils vont faire des semaines de 100, 160 kilos, 200 kilos. Fait que c'est plus quelque chose de drastique. Si tu as jamais fait de la vitesse, puis tout d'un coup, tu vas à la piste, puis tu te claques des 400 mètres à bloc,
ouais.
Ça, c'est un élément significatif. Puis ça a une demande sur les structures qui sont vraiment au-delà de la capacité normale à juste faire un jog easy. Fait que ça, c'est un élément significatif, puis je me dirais, là, porte attention à ça. Puis si les gens voient aucun changement significatif dans ce qu'ils ont fait, mais là, je regarde à l'extérieur. Fait que check ton vase. Est-ce que tu dors aussi bien que d'habitude? Quantité, qualité. Est-ce que tu manges ce que tu es supposé manger dans tes récupérations habituelles si t'es, mettons, t'es bien outillé là-dedans puis t'as assez de notions? Check tes relations interpersonnelles. Y a-tu du stress? Y a-tu quelque chose qui te bug dans ta vie personnelle en ce moment? Puis si oui, moi, j'aurais tendance à juste me dire, OK, c'est peut-être que mon vase est plus petit en ce moment. Je vais juste m'assurer que l'eau, elle déborde pas trop, puis j'essaie de gérer mon stress et tout ça pour passer à travers.
Mm-hmm. C'est vraiment une bonne image, puis ça illustre très bien ce que tu es en train d'expliquer. Là. Mm-hmm. Ouais, tout à fait.
Puis je trouve toujours chez quelqu'un. Comme quelqu'un qui vient me voir en clinique, on trouve toujours c'est quoi? C'est soit le vase trop petit, soit le verre trop plein. Puis c'est rare qu'il y a rien. S'il y a rien, c'est juste que les gens ont peut-être pas assez de recul sur la situation.
Pour être capable de voir qu'est-ce qui est...
Puis ils reviennent deux semaines après, puis ils sont comme, « Hey, tu sais quoi, j'ai pensé à ce que tu m'as dit, puis oui, il y a ça, tu sais. »
Ouais.
Fait que...
Ouais, c'est ça. Une fois que tu leur dis, ils retournent chez eux, puis là, ils réalisent que finalement, ils dorment pas parce qu'ils ont un enfant.
Quand ils sont allumés la nuit à penser à ça, c'est comme crime, c'est vrai que je dors pas.
C'est ça, dans le fond, qui se passe.
Ouais.
Ah, OK, cool, très cool. Un autre point que je voulais qu'on aborde, c'est les souliers.
Mm-hmm.
Parce que les souliers, ça fait beaucoup jaser. Beaucoup de marketing autour des souliers, beaucoup de...
Énorme.
Beaucoup de... Encore une fois, pour revenir à ce que je te disais tantôt de comment le triathlon, c'est trendy, tu ouvres ton feed, puis il y a quelqu'un qui est en Alpha Fly en train de faire un jog relax.
Ouais.
Lac
de carbone
moi,
pour
j'ai,
des...
j'ai beaucoup de commentaires par rapport à ça, mais je vais m'en passer pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'on remarque par rapport aux souliers? Parce que là, il y a évidemment... La clinique du coureur qui tend vers le minimaliste beaucoup dans ce qui prône. Après ça, on a les compagnies de souliers qui prônent beaucoup vers
l'énorme botte de construction.
Puis parallèlement à ça, on a les plaques de carbone qui sont extrêmement efficaces à une certaine vitesse, mais qui aussi, j'imagine, ont leur désagrément quand vient le temps de courir relax. Je te lance sur le soulier.
Ouais, il y a plein de choses à dire sur le soulier. Tu sais, je pense que la première grosse catégorie de nuances qu'il faut faire, c'est est-ce qu'on parle de performance ou est-ce qu'on parle de prévention ou gestion de blessure? Ouais. Fait que on peut faire les deux parce que les deux sont intéressants. Commençons par la performance.
Mm-hmm.
C'est tellement nouveau, tout ce marketing puis le développement de la chaussure. Tu sais, il y a clairement une effervescence croissante sur la chaussure dans les dernières années. Puis les athlètes professionnels sont maintenant utilisés comme panneaux publicitaires. Fait qu'il y a beaucoup d'opportunités marketing pour les marques. Fait que tout ça pour dire que quand on parle de performance, en ce moment, c'est trop nouveau pour dire qu'on a des conclusions très solides à savoir si ça aide ou non. Je peux dire ce qu'on sait en ce moment, au meilleur de mes connaissances. Puis, tu sais, j'ai quand même, je lis régulièrement la littérature sur le sujet. J'ai fait une petite revue dans les dernières semaines en préparation avec ça. Fait que si on parle de performance, tu sais, le facteur numéro un, en ce moment, ça devrait être le poids du soulier.
Ouais.
De façon très simple. Si on parle d'économie de course, économie de course, c'est la quantité d'énergie, d'oxygène que tu utilises pour te déplacer. Fait que tu veux être le plus économique possible pour être le plus performant possible. Fait que le critère numéro un, ça devrait être le poids. Et pas loin en égalité, ça devrait être le confort. Parce que si t'es pas confortable dans ta chaussure, tu vas pas être capable d'avoir ta mécanique de course adéquate pour performer. Puis si t'es pas confortable, tu vas peut-être te blesser. Puis si tu te blesses, tu seras pas performant. Fait que numéro un, c'est le poids. Après ça, si on rentre là-dedans, les foams, les plaques de carbone, tu sais, en ce moment, on n'est pas capable de dire que la plaque de carbone de façon isolée ou le foam de façon isolée sont vraiment le facteur qui améliore l'économie de course.
Mm-hmm.
Parce que ce qu'on voit dans les études, c'est que les gens, ils vont prendre une paire de chaussures avec une plaque de carbone, puis on va être capable de mesurer qu'il y a une amélioration au niveau de l'économie de course, par exemple. Mais il y a une étude qui a aussi coupé en morceaux la plaque de carbone pour voir si c'est vraiment la plaque ou le fait que le soulier soit plus léger, plus confortable, puis peut-être même un effet un peu grandiose placebo.
Parce que n'importe qui a touché à des souliers de plaques de carbone, les compagnies, ils font pas juste mettre la plaque de carbone sur leur soulier d'entrée de gamme, ils font
exact.
Le soulier le plus léger que tu as jamais pris dans tes mains.
À 375$.
À 375$, mais ils mettent tout, toute la R&D, non seulement juste la plaque de carbone du fond, mais toute la R&D au complet dans ce soulier-là, pas au détriment des autres, mais pour la performance.
Ouais. Et le marketing est autour de ça.
Il y a tous ces facteurs-là qui vont dans ce soulier-là.
Ouais. Fait que, en ce moment, on n'est pas capable de dire que la plaque elle-même, de façon isolée, c'est ça qui a un effet sur l'économie de course ou sur la performance.
Mais mettons que je mets une bémol. Je comprends que ça doit être difficile à isoler pour une étude à large éventail. Mais pour avoir couru avec ce type de souliers-là, à des vitesses, tu sais, mettons, autour de 3,20 du kilo, sur une
surface
piste,
ferme.
Surface ferme, ça a une incidence. Là, ou du moins, le soulier en a une réelle. Mettons que je faisais... moi, je courais avec New Balance.
Ouais.
Je courais avec les New Balance Fuel Cell Rebel, qui sont comme leurs souliers les plus rapides... et les plus légers avant plaque de carbone. Puis, le même soulier qui est le même foam, mais la plaque de carbone un petit peu plus léger, ce soulier-là, sur la piste, à la même intensité, c'était quand même... Je sais pas si c'était parce que j'étais biaisé ou si ou s'il y a d'autres facteurs dans le soulier, mais c'était comme de 3 secondes du kilo. Là,
c'est ce qu'on peut dire, clairement, c'est que toi, de façon individuelle, tu perçois
l'amélioration. Je l'ai perçu, clairement.
Exact. Là, puis, tu sais, moi, l'avantage que je trouve que j'ai, c'est que je suis clinicien.
Ouais.
Puis, quand tu es clinicien et que tu as une pratique basée sur les évidences, il faut que tu considères trois trucs. Les données scientifiques, ton expérience de clinicien, puis le vécu, les croyances, les préférences du patient. Puis tu fais une espèce de melting pot,
un
heureux mélange de ça. Fait que moi, cliniquement, ce que tu me dis, je l'observe. Mes athlètes qui courent avec des plaques de carbone me rapportent exactement ce que tu dis.
Ouais.
Puis c'est quand même intéressant parce que dans les études qui regardent ça, ce qu'on voit, c'est que si tu donnes un soulier avec une plaque de carbone à quelqu'un, sur l'économie de course, ça peut aller jusqu'à moins 14% sur l'économie de course, jusqu'à plus 8-10% dépendamment des études.
Mm-hmm.
Fait que ce qu'on voit, grosso modo, c'est qu'il y a une énorme variabilité. On remarque aussi que les gens chez qui ça avait le plus d'effet, c'est les gens qui étaient le plus confortables dans le soulier.
Ouais.
Fait qu'encore une fois, le lien avec le confort. Fait que moi, ma recommandation aux gens, c'est comme... Si tout ce que tu fais ailleurs est bon, puis que toi, tu perçois que la plaque de carbone a un effet positif, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je suis pas, pas dans une guerre contre les plaques de carbone, mais les gens qui pensent que cet outil tout seul va les amener dans le top 10 de leur course, alors que le sommeil est sous-optimal, l'entraînement est un peu tout croche, puis la nutrition est broche à foin, ben, tu sais, tu mets pas tes œufs dans le bon panier, ou en tout cas, bref, c'est pas ça l'expression, là, mais tu mets pas ton argent à bonne place de façon majoritaire. Mais les gens qui ont déjà fait le 80-90% de base efficace, pourquoi pas? Mais en ce moment, on le sait pas sur la performance. Puis ça, c'est l'autre enjeu, c'est que l'amélioration de l'économie de course, c'est pas clair que ça se transmet dans la performance. Parce que l'économie de course, qu'on mesure, c'est comme moins de consommation d'oxygène chez les gens, mais c'est pas clair que sur un 400 mètres ou sur un marathon ou demi-marathon, que le temps, qui est vraiment la performance, que ça va s'améliorer. Fait qu'on le sait pas. Mais ça va être intéressant de suivre les études dans les 10 prochaines années. Les études, idéalement, qui sont pas financé par les marques. C'est parce que ça prend des études indépendantes.
Ouais, je comprends.
Fait que ça, c'est ce que j'aurais à dire sur la performance en lien avec le suivi.
Je comprends. Puis si je peux, j'imagine, avancer une hypothèse que tu pourras me ramener si jamais c'est pas le cas. Moi, venant de la natation, quand il y avait les super suits, c'est les maillots qui ont été bannis en 2009, puis maintenant, il y a pas l'équivalent, mais maintenant, c'est des, il y a eu de la réglementation, mais il y a quand même des maillots de compétition que tu mets en compétition. Il y a une vitesse où est-ce que ça change rien? Puis la même chose en vélo, quand tu veux être le plus aérodynamique possible, il y a une vitesse où est-ce que ça change rien.
C'est à partir d'environ 30 km/h.
Fait que j'ai l'impression que les souliers, à moins que je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a aussi une vitesse que la plaque de carbone. Mais admettons qu'il y a. Admettons qu'on dit qu'il y a un effet positif de la plaque de carbone. Si tu jogues à 6 du kilo, j'ai pas l'impression qu'elle va donner rien du tout, ou que si ça donne quelque chose, ça va être extrêmement minime. Là.
Fait que moi, avec ce que je sais en ce moment, j'aurais tendance à être d'accord avec cette hypothèse-là. Ouais. C'est une hypothèse qui est plausible au niveau de ce qu'on comprend dans les mécanismes. Mm-hmm. Si tu parles du mécanisme que la plaque de carbone est supposée se déformer pour faire un retour sur énergie, mais plus elle se déforme, plus il devrait avoir de retour. Donc, plus il y a une vitesse élevée, ça plaît à l'esprit.
Ouais. Mais on le sait pas.
On le sait pas, mais c'est intéressant parce que c'est sûr que ça va être testé.
Éventuellement.
Puis tu sais, tantôt, on va parler de renforcement puis de prévention sur les blessures, puis on fera le lien avec la vitesse parce qu'il semble y avoir un lien entre certaines vitesses puis la prévention de blessures en lien avec le renforcement. Fait que c'est pas bête de penser ça.
Ouais.
Moi, j'ai vraiment hâte de voir où ça va aller à ce niveau-là.
Ouais. Puis donc, partant de là, allons vers la prévention de blessures le soulier. Fait que je te lance là-dessus. Prends-le du côté que tu veux aller. Là.
Fait que tu sais, de façon simple, si on veut y aller avec des faits qu'on sait en ce moment. Puis ça, la revue systématique la plus récente, c'est une revue Cochrane. Cochrane, là, c'est comme un groupe de chercheurs, c'est une organisation que leur job, c'est de faire à peu près les meilleures revues systématiques d'études qu'on connaît en termes de rigueur. Fait que quand tu as une revue Cochrane, tout le monde se garoche pour lire ça. Okay?
Principalement dans le sport ou...
En médecine, n'importe quoi, en général, en santé.
Ouais.
Fait que revue Cochrane, si je me trompe pas, c'est 2021. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Ou 2023, bref. Grosso modo, la chaussure n'a aucun effet pour la prévention de blessures. On n'est pas capable de dire en ce moment que la chaussure a un effet pour prévenir les blessures. Qu'on parle de chaussures maximalistes versus minimalistes, de contrôle, de technologie de contrôle, tu sais, comme anti-pronateur, etc. Le drop, l'amorti, le coussinage, la rigidité. On n'est pas capable de dire que ça prévient les blessures.
Mm-hmm.
Ce qu'on sait, par contre, c'est que les gens qui ont une chaussure maximaliste, donc plus ta chaussure, elle est grosse, OK, un gros coussin, ce qu'on observe comme conséquence sur le comportement du coureur, il y a plusieurs choses qu'on va observer. Un, ça va ralentir la cadence.
Ouais.
Fait que le nombre de pas par minute que les gens font, ça va ralentir. Puis on sait que de ralentir une cadence, ça semble pas être une bonne idée en course à pied. On essaie d'avoir une cadence qui est plus élevée, 170, 180, 190,
180,
pas par minute, c'est ça. Fait que ça, c'est un des impacts qu'on voit. Si tu mets une grosse chaussure dans le pied de quelqu'un, ça ralentit la cadence de façon naturelle. Sauf si la personne, elle s'entraîne à courir à une bonne cadence avec le soulier.
Ouais.
L'autre chose qu'on observe, c'est que ça amène...
J'imagine, juste parenthèse, j'imagine que ça a un lien avec plus ton coussin est grand, plus le pied amorti, puis là, plus t'as un turnaround qui est moins rapide. Là.
C'est que plus t'es loin de ton nu-pied, qui est le pied naturel, plus t'as pas besoin d'utiliser tes muscles puis ta mécanique pour amortir l'impact. Parce que ta chaussure, elle peut amortir l'impact. T'sais, si tu vas courir nu-pied dans la rue, il y a personne qui va attaquer du talon.
Ouais.
Tu vas te défoncer le talon.
Ouais.
Versus si tu mets une grosse chaussure avec un coussin, tu peux courir à peu près comme tu veux puis c'est super confortable. Mais ce qu'on voit, c'est que ça augmente la vitesse de la force d'impact sur les articulations.
Mm-hmm.
Fait que quand on a une grosse chaussure, ça augmente le stress sur le genou, sur la hanche, sur le dos. OK? Puis ça, on a la même chose si on ralentit la cadence un petit peu. Ce qui n'est pas nécessairement automatique de causer des blessures. C'est pas automatique dans ce sens-là, mais c'est des paramètres qu'on corrèle de temps en temps à peut-être plus de chances de blessures.
Mm-hmm.
Okay? C'est pour ça qu'on a comme des recommandations grossières dans la course à pied de faire des petits pas, essayer de courir léger, essayer d'augmenter la cadence, d'avoir un centre de gravité qui est un peu plus vers l'avant pour atterrir en dessous. T'sais, tu veux que ton pied atterrisse en dessous de ta hanche ou en dessous de ton centre de gravité. Fait que quand tu as une grosse chaussure, ça réduit la cadence, ça augmente les forces d'impact au niveau des articulations. ça augmente l'angle entre le pied et le sol. Fait que, tu sais, si tu attaques le sol avec ton talon, ton pied est pointé vers le haut, ça fait un grand angle. Puis ça, cet angle-là, ben, ça crée ce qu'on appelle des phases de freinage. Fait que tu vas freiner ta course. Puis, ben, techniquement, quand tu cours, tu veux avancer. Fait que là, tu as comme des vecteurs mathématiques qui sont en
désaccord.
En désaccord, exactement. Fait que même pour l'efficacité de course, peut-être que c'est ordinaire. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on voit quand on met des grosses chaussures. Plus on a une chaussure minimaliste, plus on a tendance à voir que les gens ils font des petits pas, ils sont plus légers, ils vont faire moins de bruit, ils vont avoir une moins grande vitesse de la force d'impact, fait que moins de bruit au sol, puis moins de charge au niveau des articulations. C'est pas automatique que ça prévient les blessures. L'autre élément qui est intéressant, c'est que quand tu mets une chaussure minimaliste, automatiquement, ça augmente le stress sur ton pied, sur ton tendon d'Achille puis ton mollet. Ça, c'est clair.
Ouais.
N'importe qui a déjà essayé de faire une transition vers du minimaliste, il a été raqué en masse au mollet. Puis, tu sais, moi, je cours en minimaliste en trail. J'ai fait l'UTHC 65 avec des souliers minimalistes 80%, mais ça m'a pris 6 mois à faire la transition. Puis, j'ai été raqué presque non-stop au mollet pendant un mois, tu sais. Mais, tu sais, toujours en surveillant le dosage. Fait que, bref, ça, c'est clair. Si tu as une pathologie, ben ça, on y reviendra, mais si tu as une pathologie au niveau du pied ou du tendon d'Achille ou du mollet, c'est pas une bonne idée de faire une transition là vers le minimaliste.
Ouais.
Parce qu'on sait que ça augmente les charges là. Versus quand tu as une grosse chaussure, ça augmente les charges au niveau du tibia, du genou, de la hanche puis du bas du dos.
Mm-hmm.
Fait que déjà, ça nous donne comme un outil dans la gestion des bobos. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la chaussure, tu peux l'utiliser pour un outil pour gérer une douleur qui est apparue momentanément. Fait que si tu commences à jogger tout d'un coup cette semaine puis que tu as une nouvelle douleur au tendon d'Achille puis que tu as tendance à courir en chaussure minimaliste, ben une recommandation à court terme, ça peut être d'utiliser un talon qui est un peu plus épais, une chaussure un peu plus grosse, juste pour réduire le stress mécanique sur ton tendon. Ça part, parfait, tu refais ta transition, tu reviens à tes souliers habituels.
Mm-hmm.
Fait que quand tu comprends ces mécanismes-là, tu sais que tel type de chaussure augmente le stress à tel endroit puis ça réduit à tel endroit, tu peux un peu jouer avec ces paramètres-là puis te sortir d'un épisode douloureux beaucoup plus vite que si tu disais j'arrête complètement, parce que c'est la pire chose à faire d'arrêter totalement, sauf dans certaines exceptions. T'sais, ça, c'est ce qu'on sait dans les souliers dans leur rôle de prévention, puis aussi de comment on peut utiliser les chaussures pour faire de la gestion au niveau des douleurs et des blessures.
Ouais. Est-ce que c'est pour ces raisons-là que tu as fait de la transition vers la chaussure minimaliste pour le trail? Parce que moi, on dirait que je pense en trail, je me dis... que je courrais pas avec des chaussures minimalistes. Là, c'est tellement rough sur les articulations, les racines, tout ça. J'ai l'impression que je me pognerais tout le temps. Mais peut-être c'est juste une impression qui est mal...
Fait que tu vois, ce qui est drôle, c'est que quand on se parle entre cliniciens qui traitent des coureurs, on l'a pas au niveau de la littérature, à ma connaissance, mais cliniquement, on observe que les gens qui courent entre elles ont tendance à être un peu moins blessés.
Ouais.
Que les gens qui courent en route.
Ça,
à cause qu'on a une variation du patron mécanique.
Ouais.
Tantôt tu marches, tantôt tu cours, tantôt tu montes, tu descends. Fait que versus la répétition de la route. Fait qu'au niveau des blessures de surutilisation, on en a peut-être moins.
C'est ça, plus de blessures traumatiques, par exemple.
Ou plus de blessures traumatiques. Ça, c'est clair, on l'a au niveau de la littérature. Entorse de cheville, fracture, etc. Pour ce que tu dis, en fait, tu sais, en trail, mieux tu sens le terrain, mieux tu es capable de poser ton pied à la bonne place. En minimaliste, tu sens super bien le terrain. C'est très difficile de te faire une entorse de cheville parce que tu n'as pas de bras de levier par le talon de la chaussure pour te faire verser ton pied. Fait que par exemple, quand tu as un talon de 10 mm de hauteur, ben, dès que tu as un petit angle pour amener ton pied vers, mettons, une entorse, ben, le bras de levier créé par le talon peut augmenter le risque que ça se fasse. C'est juste au niveau mathématique, mécanique. Fait que moi, ça m'est arrivé beaucoup, c'est très anecdotique, entre elles, que ton pied, c'est comme s'il allait virer, mais il vire jamais, juste parce qu'il n'y a pas d'espace pour virer plus, mon pied, il est au sol.
Ouais.
Fait que à condition de faire une progression puis une transition qui est très progressive, qui est bien dosée, pour vrai, là, maintenant, c'est des pantoufles, courir en souliers minimalistes. Puis, comme je disais, j'ai fait l'UTHC, là, je fais le QMT en fin de semaine, 50, tout en souliers minimalistes. Depuis 4 ans, je fais juste toute ma trail, c'est juste en souliers minimalistes. Mais il faut vraiment avoir fait une transition. Puis, moi, ça me fait bien. Il faut l'essayer pour les gens qui veulent arriver là. Il y en a peut-être qui ne réussiront pas à s'adapter. Moi, je challenge les gens à savoir qu'ils sont peut-être juste pas assez patients pour que ça se fasse.
Mm-hmm. Puis, moi, comment je fonctionne, c'est que j'alterne vraiment beaucoup mes souliers de course.
Mm-hmm.
J'ai des souliers dédiés à
certains types
de sorties.
Ouais.
C'est-tu recommandé, pas recommandé, neutre?
C'est...
Parce que je m'adapte comme Pas vraiment, mais en même temps, je m'adapte complètement tout le temps. Fait que c'est quoi la...
En fait, ça semble être une bonne idée. On a quelques études qui ont démontré que les gens qui ont une rotation dans leurs chaussures semblent réduire un peu leur risque de blessure. Mais on n'a pas une tonne d'études là-dessus, mais la tendance en ce moment, c'est que ça semble être une bonne idée. Ce qui est clair, par contre, c'est que je recommande aux gens que la chaussure qui est utilisée pour le jour J, pour l'événement, d'être très bien adaptée à ça. Mm-hmm. Fait que, tu sais, les intensités, ouais, les gens qui font du pace marathon, ou les gens qui font, bref, peu importe, quand tu fais de l'intensité qui ressemble à ta course, tu veux être sûr que ton cerveau se rappelle bien de la chaussure, que ta pose de pied est bien ancrée. Tu veux que la mécanique de course soit comme automatique dans cette chaussure-là.
Mm-hmm. Puis, qu'en est-il de la fameuse plaque de carbone? Parce que quand t'écoutes, mettons, je sais que c'était Charles Philibert Thibouteau qui est venu au podcast, qui là vient de se qualifier pour les Olympiques en fin de semaine.
Ouais.
Qui lui dit que la grosse différence depuis qu'il a les super shoes, c'est qu'après avoir fait des gros trainings sur les super shoes en carbone, il est capable le lendemain de ne pas être trop pété, de pas être trop raqué, de plus enchaîner les entraînements comme ça. Qu'en est-il au niveau de la science? Est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça peut représenter, ça, pour la diminution, j'imagine, du raquage et des blessures?
Ouais, si ça pouvait prévenir, mettons, ce qu'on appelle les douleurs musculaires liées à l'entraînement.
Ouais.
C'est une bonne question. On n'a pas encore la science pour nous dire oui ou non par rapport à ça. Tu sais, au niveau, encore une fois, pour le moment, c'est plus la réponse des gens au niveau individuel. Fait que si lui perçoit une différence, tant mieux, puis parfait. Tu sais, ouais, c'est vraiment le plus que je pourrais me prononcer. On sait tellement pas. T'sais, j'aimerais ça avancer des trucs.
On entend aussi dire que ça peut endormir le pied si tu te cours trop dessus, mais ça
je serais vraiment je pense pas que ça se peut, honnêtement. Ouais. Tu sais, je me baserais sur les études qu'on a au niveau, mettons, dans le dos. Tu sais, dans le gym, les gens qui lèvent avec une ceinture, les gens, ils pensent que ça endort les muscles abdominaux. On n'a pas ça. Tu sais, pour endormir des muscles, il faudrait que tu portes un corset autour de ta tête pendant 6 mois. Ou, tu sais, l'inactivité physique ou l'alitement.
Puis en quand tu es en train de faire des répétitions de 1200 mètres à bloc, tu pas en train d'endormir.
C'est
tes
ça. Tu sais, si tu t'alites à l'hôpital, ça endort les muscles. Mm-hmm. Mais je serais pas inquiet avec ça. Mais on a juste pas assez de science pour ça. Par contre, si je reviens sur les souliers minimalistes, ce qui est intéressant, c'est que. Tu sais, peut-être c'est un bon moment pour transitionner vers le renforcement puis la prévention de blessures, mais il y a un lien avec le pied parce que techniquement, puis on a quand même une donnée qui est très à jour. Là, en début 2024, en janvier, il y a une revue systématique méta-analyse qui est sortie de WHO, c'est un groupe britannique et américain. Puis eux, ils ont testé à savoir qu'est-ce qu'on sait en ce moment sur les gens qui font des exercices de renforcement pour prévenir les blessures en course à pied. Puis eux, ils ont spécifiquement regardé les sportifs d'endurance. Fait que c'est vraiment intéressant.
Ça nous concerne.
Puis, techniquement, tu sais, si on a une réponse honnête en ce moment, c'est que est-ce que du renforcement, ça prévient les blessures? C'est genre, on le sait pas vraiment, tendance que pas vraiment, mais avec des exceptions.
OK.
Fait que si tu...
C'est drôle, ce que tu dis là, c'est une nouveauté pour moi. Là.
Ouais, puis je sais que ça clash avec ce que certaines personnes peuvent avancer. Puis je sais qu'il y a des experts dans le milieu de la préparation physique
qui doivent être en désaccord.
Qui sont probablement en désaccord. Puis c'est là que je vais faire les nuances, OK? Parce que si tu regardes la méta-analyse qui est la plus récente, fait qu'on a toutes les études pertinentes sur le sujet, puis il ne faut pas oublier que là, c'est très spécifique aux coureurs d'endurance, OK? On n'est pas capable de dire qu'on prévient les blessures avec un programme de renforcement. Par contre, ce qu'ils ont remarqué, c'est que si on analysait les études qui ont fait un programme supervisé, eux, on semblait avoir un effet un peu plus significatif.
Mais supervisé, c'est-à-dire le coach est là, puis t'as
exact, t'as ton trainer avec toi. Mais ça ne semble pas être un effet incroyable. C'est une légère réduction des blessures.
Sur la prévention des blessures.
Sur l'incidence de blessures. Fait qu'ils suivent les gens dans l'année suivante, ils regardent qui se blesse, ils comparent les gens qui ont fait un programme versus ceux qui ont juste couru. La nuance qui est importante, c'est que ce qu'ils ont mesuré aussi, c'est que si tu as ton coach qui est devant toi puis qui fait un programme supervisé, ça augmente l'adhérence au programme. Fait que les gens, ils le font plus.
Ouais.
Fait que là, est-ce que les gens sont moins blessés parce qu'ils ont fait un programme d'entraînement ou juste parce qu'ils ont vraiment plus fait que les gens qui faisaient rien parce qu'il y a une meilleure adhérence? On le sait pas. Par contre, ce qu'on sait avec un très bon papier, ça, c'est une étude de Tadé, c'est une étude brésilienne, je pense que c'est 2020. Si tu fais du renforcement du pied, Ça, c'est clair que tu as un effet de réduction des blessures en course à pied de tout le cadran inférieur. Fait que pied, genou, hanche, jusqu'au dos. Puis ça, c'est un programme de 8 semaines. Ils ont fait du renforcement du pied. Tu avais comme 8-10 exercices. Puis ils ont suivi les gens pendant un an. Ce qui était quand même intéressant parce que quand tu suis les gens 3 mois, 6 mois, c'est comme un peu trop proche de l'intervention. Tu veux savoir est-ce que les gens ont un effet pendant un an. Fait que si aujourd'hui, tu pars avec ce programme-là, tu fais 8 semaines de training pour tes pieds, sur un an, tu as 2,42 moins de blessures que les gens qui font pas ce programme-là.
2,42, ça veut dire 242% moins?
Ou... Non, deux fois moins. C'est un risque relatif. Fait qu'il y a 2,42 moins de blessures dans le groupe qui a fait le programme d'entraînement que dans le groupe qui en a pas fait.
Puis quand tu parles d'entraînement de pied, c'est de la c'est proprio...
Fait qu'il y a plein de choses, tu sais, t'as de l'équilibre sur une jambe, ouais. T'as genre des gammes avec les orteils, tu sais, genre lever ton orteil, plier ton orteil, mettre ton orteil sur le côté. T'as un exercice qu'on appelle le short foot, qui est un des exercices les plus étudiés pour le pied. Le short foot, c'est comme si t'essaies de raccourcir ton pied, comme si tu veux creuser ton arche, OK? Exercice très technique, ça demande beaucoup de contrôle musculaire. Moi, je l'enseigne en clinique, c'est super efficace pour les gens qui sont très habiles de le faire. Puis c'est vraiment intéressant, c'est un des seul papier qui a vraiment démontré de façon claire dans un essai clinique randomisé que de faire du renforcement, ça prévient les pathologies. Mais quand tu regardes la somme des études, on n'est pas capable de dire que tu as réellement un effet. Mais le plus gros problème, en fait, puis c'est pour ça que je dis que c'est plus on ne le sait pas qu'un non définitif, c'est que la qualité des études sont vraiment ordinaires. Puis l'autre problème, c'est aussi la définition de ce que c'est une blessure en course à pied. C'est inconstant à travers les études. Puis c'est drôle parce que depuis 2015, on a un consensus d'experts qui a défini qu'est-ce que c'est une blessure en course à pied pour que les auteurs des études utilisent toujours la même définition. Mais c'est pas toutes les études qui utilisent cette définition-là. Fait que, bref, faudrait toujours avoir la même définition des études, la même définition de ce que c'est une blessure pour qu'on soit capable de comparer des pommes avec des pommes.
Mm-hmm. Puis ce que tu dis là ne veut pas dire que le renforcement musculaire est inutile en course à pied parce que j'imagine qu'au niveau de la performance, c'est nécessaire.
Puis tu sais, même si on n'a pas les données scientifiques pour dire hors de tout doute que ça prévient les blessures, moi, je le recommande dans un programme général pour quelqu'un qui fait du sport d'endurance. Tu sais, même sortons du sport d'endurance, pour la santé générale, là, tu devrais faire du renforcement musculaire.
Ouais.
C'est démontré que c'est un des meilleurs prédicteurs de longévité, les gens qui font du renforcement musculaire. De la même chose que ton VO2 max, ton cardio, c'est une des meilleures mesures de longévité. Encore plus quand tu es rendu à un certain âge, en haut de 40 ans, puis que tu es propice à faire de l'ostéoporose, encore plus chez les femmes autour de la ménopause, les gens qui ont un antécédent de chute avec des fractures, tu sais, toute cette clientèle-là, ils bénéficient de faire de l'entraînement musculaire juste pour la santé en général. Si on rentre dans le sport endurance, c'est très clair les bénéfices du renforcement musculaire sur l'amélioration de la performance, amélioration de l'économie de course. Puis pour faire un loop back avec ce qu'on disait tantôt, c'est intéressant parce que le renforcement musculaire, le type de renforcement que tu fais, semble pas donner les bénéfices sur la performance pareil pour haute vitesse versus basse vitesse. Fait que si je me trompe pas, puis ça c'est une étude qui est sortie cette année, le renforcement à haute résistance. Fait que tu sais, les gens qui s'entraînent en force maximale, haute charge, peu de répétition, c'est surtout la haute vitesse qu'ils vont gagner en performance. Versus plus de, je pense qu'ils avaient comparé plus la pliométrie. Fait que c'est explosif, mais c'est pas de la force maximale. Eux semblaient beaucoup gagner dans la performance en lien avec les efforts à plus basse vitesse. Mais bref, tu sais, la force maximale, c'est une qualité musculaire à développer chez tout le monde, encore plus dans les sports d'endurance pour les gens qui veulent améliorer leur performance. Et moi, comme physio, pour la prévention des blessures, ça plaît vraiment à l'esprit de croire que ça peut avoir un rôle. Simplement parce qu'on sait que si tu renforces tes muscles, tu as des tendons qui sont plus solides, tu as des muscles qui sont mieux adaptés à prendre une contrainte musculaire, tu as même un effet sur l'os, fait que l'os va se densifier, il va être de meilleure qualité quand tu fais du renforcement. Fait que tu sais, théoriquement, si je te dis, ça te tente-tu d'avoir des os plus forts, des muscles plus solides, des tendons plus solides? La réponse, c'est oui. On ne sait juste pas si ça réduit automatiquement les blessures, mais au niveau biomécanique, au niveau de ce qu'on sait dans les concepts scientifiques, tout est là pour dire que c'est favorable. On n'a juste pas les études pour dire, hors de tout doute, pour l'instant, ça prévient. Mais moi, je le recommande aux gens. Moi, j'en fais personnellement. J'en fais plus pour la santé générale puis la performance. Mais si en plus, ça peut avoir un effet bénéfique sur la prévention de blessures, pourquoi pas?
Puis est-ce que tu fais de la force max?
Ouais. Fait que, tu sais, basse répétition, haute charge.
Moi, c'est la chose que j'ai jamais aimé, faire ça. Ben, j'ai jamais aimé. quand je faisais du sprint dans la natation, j'aimais ça parce que j'ai tu te crains puis tu s'en vas au gym. Mais
tu voyais comme... peut-être un lien plus direct avec
ben
ce
oui,
que tu faisais.
Aussi,
là,
t'sais. C'est ça. Tu es capable de sauter plus haut, tu es capable de sauter du départ plus haut. T'sais, tout. Mais mettons, mettre ça dans mon programme d'entraînement, ça me fait quand même chier. Genre d'aller faire ça, c'est...
J'ai tendance à un peu partager ce que tu dis.
Ouais.
C'est honnêtement, tu sais, dans les niveaux de motivation, là, la motivation idéale, c'est que tu le fais parce que t'aimes ça.
Ouais.
Motivation vraiment intrinsèque.
Ouais.
Mais t'as la deuxième niveau de motivation qui est tu le fais parce que tu penses que c'est important.
C'est
moi,
ça.
Je suis là.
Ouais, c'est
fait
ça.
Je me motive parce que je pense que c'est important.
Je comprends.
Je suis pas rendu au fait que j'ai autant de fun. Tu sais, moi, j'aime bien mieux aller dans le bois,
ouais,
courir 2-3 heures, monter sur le bike, aller rouler. Mais je le fais parce que je pense que c'est important. Puis, tu sais, de façon anecdotique, ma perception dans mon année précédente, 2023-2024, sur ces deux saisons de ski de fond, j'ai vu un effet sur les performances. Fait que ça m'a comme remotivé à le faire, mais je suis pas capable de dire que c'est vraiment ça.
Ouais.
Mais voilà, fait que j'ai le même struggle.
Moi, je me dis, puis peut-être que c'est moi qui essaie de me convaincre, là, mais je me dis que si je fais natation, vélo, au moins je développe la force un peu. T'sais. Je vais pousser des watts, des grosses intensités de watts au bike, fait qu'au moins c'est la force des jambes, puis je me dis qu'en natation, ben je travaille le haut du corps. Fait. C'est comme ben, ça je me dédouane un peu de ne pas aller faire de force max au gym.
Tu dors tranquille comme
ouais,
ça. Ce qui est clair, c'est que tu développes de l'endurance musculaire, parce que les gens n'ont pas besoin de s'entraîner en musculation d'endurance, parce que quand tu fais autant de répétitions de volume à basse intensité, ton endurance musculaire, tu la gagnes comme ça.
Ouais.
Même chose, c'est d'adapter tes structures au stress mécanique, mais pour gagner de la force max, ça semble insuffisant.
Ouais, t'sais. C'est ça.
Fait que, tu sais, les kinésiologues, préparateurs physiques qui sont experts là-dedans seraient mieux que moi dire ouais. exactement, concrètement, les recettes pour avoir des effets sur la force maximale. Mais ce qui est cool, c'est que plus t'es novice dans l'entraînement musculaire, plus t'as des gains spectaculaires
ouais,
au début.
Exact.
Mais, tu sais, quand t'arrives à un certain niveau, c'est très dur de monter ta force max.
Mm-hmm.
Fait que des fois, ça peut être un peu moins motivant parce que le travail, tu sais, le grind est très intense pour aller chercher les petites miettes.
C'est ça que David Yecker nous expliquait au niveau de la... de l'entraînement en salle, dans le fond. Il disait, lui, si tu vas courir 4 heures dans le bois chaque samedi puis que tu fais 100 km par semaine, ton endurance, tu l'as. Là.
Exact.
Ce qu'il faut que tu travailles, c'est la force max.
C'est ça, ouais, c'est exact. Ça.
Ouais. Dernier point que je veux qu'on aborde, c'était une des affaires qui m'apparaissait les plus intéressantes
ouais.
et surprenantes. C'était par rapport aux traits de personnalité et les blessures. Tu m'as écrit ça, puis je savais même pas par où réfléchir à
ouais.
cette question-là. Fait que, écoute, encore une fois, je te lance la balle. Là. Qu'est-ce qu'on a
ouais.
à dire là-dessus?
Ben, je peux te dire d'où ça vient, puis après ça, peut-être ça t'inspirera d'autres questions
ouais.
pour relancer. Vu que moi, j'ai une grande clientèle qui est de la douleur chronique, tu sais, mon classique, toutes les semaines, j'ai quelqu'un qui vient dans ma salle puis qui me dit « J'ai vu toutes les physios, toutes les ergos, toutes les ostéos, chiro qui existent, tous les médecins, personne ne peut m'aider. » Bref,
ouais.
ça, j'en ai chaque semaine.
Mm-hmm.
Fait que, clairement, au niveau mécanique, c'est pas là que j'allais trouver la solution pour aider ces gens-là. Fait qu'il a fallu que je m'intéresse à comprendre c'est quoi tous les autres éléments qui contribuent à pourquoi quelqu'un a une douleur chronique, que ce soit une personne sédentaire ou même un athlète d'endurance qui struggle avec une tendinopathie d'Achille depuis genre 10 ans, tu sais, on and off. Puis c'est là où j'ai compris que toute la catégorie de ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux, c'est un énorme portrait de ce qui explique pourquoi quelqu'un peut avoir une douleur qui persiste dans le temps, juste parce que c'est un autre élément qui peut, entre guillemets, faire chier le cerveau, puis un peu dérégler le système nerveux de quelqu'un, puis entretenir une douleur. Fait que ça, c'est un peu comme ce qui m'a amené là. Puis vu que moi, je fais du sport d'endurance, puis que je vois du monde qui ont aussi ce type de passe-temps-là, puis qui sont très investis là-dedans, j'ai aussi commencé à voir c'est quoi la littérature qui existe entre les facteurs psychosociaux chez les gens qui font des sports d'endurance et qui ont des douleurs. Puis là, j'ai commencé à voir qu'il y a plein de corrélations partout. Fait que, exemple, si tu prends juste la douleur chronique en général, les gens qui ont des traits de personnalité perfectionnistes, obsessifs compulsifs, t'sais, des TOC, puis que c'est vraiment un enjeu significatif même dans la vie personnelle, sont surreprésentés dans les douleurs chroniques. Fait que là, j'étais comme, OK, intéressant.
Okay, ouais.
Si tu prends les athlètes qui ont du sport d'endurance de haut niveau, ou même sport d'endurance en général, tu sais, regarde ce qu'on fait là, dans les ultras, ultra-cyclistes, ultra-natation, Ironman, etc. Tu as une surreprésentation de gens qui ont des traits de personnalité obsessifs-compulsifs, puis aussi des traits de personnalité de perfectionnistes. Fait que là encore, j'étais comme, OK, intéressant. Puis moi, cliniquement, c'est toujours ça qui est intéressant, c'est de voir est-ce que ça, cliniquement, je l'observe, mais les gens qui... Puis moi, j'ai un screening dans mon questionnaire médical pour avoir un sizing de la personnalité des gens parce que ça m'aide à les aider. Puis je remarque que les gens qui ont ces traits-là, c'est aussi des gens qui ont des douleurs chroniques puis que j'ai plus de difficultés à aider. Fait que là, tout ça ensemble, j'ai commencé à essayer de comprendre comment aider ces gens-là, puis de voir c'est quoi qui fait en sorte que ces gens-là sont constamment peut-être surreprésentés dans les blessures ou dans les douleurs chroniques. C'est pas super clair, mais il y a plusieurs hypothèses. Fait que, tu sais, une des choses, c'est que des gens qui ont un peu plus une personnalité obsessive-compulsive, c'est peut-être des gens qui ont une mentalité un peu plus rigide, qui sont un peu plus rigides psychologiquement. Ça veut dire quoi concrètement? T'es supposé faire un entraînement 4 fois 400 sur la piste à 320, all out, puis t'as une petite douleur dans ton tendon d'Achille que d'habitude t'aurais fait une pause, tu vas peut-être continuer. Ouais. T'as peut-être pas la flexibilité d'adapter ton entraînement selon la journée. Tu te lèves, t'es fatigué, la veille t'es sorti, puis t'es supposé faire une séance d'intervalle ou de tempo marathon, je sais pas trop. Mais peut-être que tu devrais changer selon comment tu te sens. Puis il y a de plus en plus de préparateurs physiques ou de coachs qui essaient beaucoup d'utiliser certaines données pour mesurer comment le système nerveux est en ce moment, comme la variabilité de la fréquence cardiaque. Je pense que tu as déjà parlé avec David. Pour justement essayer de cibler le bon entraînement au bon moment pour l'athlète. T'sais. Puis ça, c'est des genres de choses qui sont proposées dans ce qui explique pourquoi les gens sont peut-être plus blessés. Il y a peut-être un enjeu avec genre l'idée d'être tough puis de vouloir continuer dans la douleur. T'sais. L'idée, puis ça, je semble voir ça plus chez les hommes que chez les femmes cliniquement. Fait que ça, c'est une autre hypothèse. Puis une hypothèse qui, moi, j'observe cliniquement, c'est l'adhérence aux recommandations.
Ouais.
Fait que les gens souvent qui m'arrivent puis qui ont ce pattern de personnalité-là, souvent... peuvent avoir tendance à vouloir se mettre un peu plus en opposition ou à avoir de la difficulté à se faire, entre guillemets, coacher sur quoi faire versus du monde qui viennent puis qui sont comme « dis-moi tout ce que tu veux, je vais tout faire comme tu dis ». Fait que ça peut être des gens qui ont plus des oscillations dans leur parcours. Ils vont mieux, ils s'excitent, ils vont vraiment plus loin, ils poussent puis là, ils rechutent. Fait que puis là, tu revois puis tu es comme « ouais, mais tu sais, on avait dit le plan pour cette semaine, c'était plus ça ». Fait que c'est comme 3 hypothèses qui expliquent pourquoi ça pourrait avoir un lien. C'est assurément intéressant.
Ben, man, c'est fascinant. Moi, j'ai un faible TOC, mais quand même présent. N'importe qui me connaît est au courant de ça. Puis, ça s'est traduit... il a fallu qu'à un moment j'aille une intervention envers moi-même parce que je me rappelle encore très bien de ce moment-là. J'avais 2 entraînements cette journée-là. Je m'entraînais pour marathon. J'avais un plan d'entraînement fait par une coach qui était, tu sais, à la journée près, au kilomètre, à la minute près, en fait, c'était pas au kilomètre, mais à la minute près.
Mm-hmm, c'est dangereux, ça.
Puis à un moment donné, parce que ma vie était ce qu'elle est, j'étais entre Québec, Montréal, j'avais une journée à Montréal, puis là, je suis redescendu, j'ai fait mon jog le matin à Montréal, je redescends après une journée complète ici au studio, j'arrive à Québec, il est tard, il est comme 10h30, j'ai pas fait ma 2e course. Puis là, pendant que je suis dans mon char, je me dis, je la ferai pas. Genre, t'es cave, man, il est 9h, là. Je suis en boxeur dans mon lit. Pas capable de m'endormir.
Parce que t'as pas fait le
training. Parce que j'ai pas fait le training. Je suis ressorti courir parce que c'était un 30 minutes.
Wow.
Puis je suis sorti courir. Je suis ressorti de mon lit. J'ai mis mes shorts. Je suis allé courir à 10h30 dehors. Puis après ça, j'ai fait, là, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Puis... là, j'ai ajusté pour la fin de ce build-là. J'étais arrivé au marathon d'Ottawa en prenant 4 Advil à chaque matin. Ben, 4 Advil par jour, 2 Advil à chaque 4 heures juste pour arriver au marathon parce que le build... Puis là, j'ai dit, ça n'a pas marché. Ça, t'sais, j'ai fait un PB, mais ça n'a pas marché. Là. C'est pas supposé finir un build comme ça. Là, t'sais. Ouais. Puis après ça, j'ai remis en perspective. Puis je suis encore dans ce processus-là de me dire... Parce que mon TOC, il s'en ira jamais. Si j'ai un entraînement à faire, je vais le faire. T'sais. Ouais. Sauf qu'il faut que je modifie mon mindset pour dire le TOC, faut que tu le rediriges vers comment tu te sens
exact.
À cette journée-là.
Ouais, exact.
Puis que ça devienne ton obsession.
Parce que ça peut devenir une force.
Exact, c'est ça. Fait que là maintenant, j'essaie d'être vraiment plus... Tu sais, in tune avec mon corps. Mm-hmm. J'avais la Oura Ring que j'ai enlevée parce que ça me créait trop d'anxiété. Là, je viens de me repogner le bracelet Whoop pour réessayer tranquillement d'avoir des marqueurs parce qu'avant, ça me jouait trop dans la tête. Là, ça semble être correct. Mais de vraiment, quand je me lève le matin, de faire que mon TOC, c'est ça. Mon TOC, c'est de dire, OK, là, il faut que tu fasses le meilleur entraînement possible selon comment tu te sens. C'est ça l'idée, là, tu sais. Puis...
Tu fais juste reframer l'histoire.
Exactement, exact.
Ouais.
Puis, ça fait aussi... Puis, en fait, c'est aussi... Puis ça peut m'amener un point que je voulais aborder pendant que tu parlais tantôt, qui était les fameux plans d'entraînement,
ouais.
que tu n'as pas de coach à côté de toi. Il y a beaucoup de monde, il n'y a personne qui a un coach qui vient le coacher tout le temps, pratiquement, là, des gens qui nous écoutent, là, mm-hmm. à part des gens qui sont dans des clubs, littéralement, puis encore là, pour avoir été dans des clubs compétitifs, le coach ne t'écoute pas tout le temps. Là.
Non.
Il t'écoute en fait pratiquement jamais.
Ouais.
Mais faut comme que tu sois capable d'adapter ton training selon... comment tu te sens, tu sais.
100%.
Puis ça, je pense que c'est essentiel. Là.
Ouais, puis tu sais, ce que tu dis, t'es quand même probablement fort en ce qu'on appelle la consciencieusité dans les 5 grands traits de personnalité. Ouais. Tu sais, la consciencieusité, c'est la capacité de quelqu'un à sacrifier des trucs court terme pour voir le but à long terme. Tu sais, capacité de s'organiser, faire des tâches, régler des trucs versus les gens qui sont extrêmes procrastinateurs. Puis tu sais, à l'extrême spec, ça peut être le perfectionniste puis le TOC, mais c'est une force pour des gens qui le redirigent au bon endroit.
C'est ça, exact.
Puis tu sais, on parlait des sources de motivation tantôt. Tu sais, ce que tu décrivais tantôt, t'es comme dans ton lit puis t'as le discours de toi avec toi-même puis t'es pas bien si tu pourras pas faire ta nuit si tu t'entraînes pas. Ça, dans le spectre des bonnes motivations, t'es au début du spectre des mauvaises motivations qui est la pression interne.
Ouais.
T'sais, après ça, t'as la pression externe, genre faut que j'y aille parce que faut que mon ami soit fier de mon Strava que j'ai fait. Puis après ça, t'as la motivation. T'as amotivation, qui est comme l'absence de motivation.
L'apostrophe amotivation.
Fait que sur le spectre de la motivation, de la motivation jusqu'à motivation intrinsèque, t'as ce spectre-là.
Ouais.
Fait que tu sais, c'est vraiment... Moi, quand les gens ils font du sport d'endurance, il faut vraiment se demander pourquoi tu fais ça.
Ouais.
Si ton why il est pas clair, down the line, il y a quelque chose qui va se passer qui va chier. Tu vas te blesser, tu vas tomber en dépression, tu vas pas aimer... Tu sais, tu vas avoir un breakdown quelque part parce que ça a un coût psychologique énorme de faire quelque chose pour, entre guillemets, les mauvaises raisons ou de pas avoir identifié les raisons profondes pour lesquelles on fait ça. Mm-hmm. Puis tu sais, un des super bons exemples, parce que j'ai un athlète en clinique qui a des comportements comme ça. J'ai parlé de Courtney DeWalter, tu sais, c'est qui? Courtney DeWalter, là, tu sais qu'elle a aucun plan d'entraînement, elle a pas de coach,
elle se réveille, pas de plan de nutrition.
Puis, en ce moment, c'est la meilleure athlète au monde en trail running d'endurance. Tout genre confondu.
C'est
là.
Probablement...
C'est la plus grande athlète.
Une des meilleures athlètes au monde.
Ouais. Rentre les hommes, les femmes, c'est la plus grande athlète en trail running. T'sais, elle clenche les hommes dans les distances en haut de 200 000.
Ah, mais au-delà du trail running aussi, c'est,
ah ouais, mais c'est
probablement une des meilleures athlètes
incroyable.
Ever.
Puis, qu'est-ce qu'elle aime? C'est être dans le bois fucking longtemps, pendant 8, 10, 12 heures. Tu sais, son chum, il disait, elle se lève, elle dit, je m'en vais courir 20 km. Finalement, elle revient, elle a couru 100 km.
Ouais.
Fait que, tu sais, elle a clairement de la flexibilité psychologique. Peut-être elle n'a pas assez de structure. Peut-être que si elle était encore mieux structurée, elle serait encore meilleure. Mais là,
on sait pas.
Jusqu'à où tu veux t'amener, tu sais, quand t'es la meilleure au monde. Mais ouais, bref, ça, c'est un très bel exemple. Tu sais, moi, j'essaie de pas avoir de plan. Parce que, tu sais... J'ai une job à temps plein.
C'est ça, là.
Genre, t'essaies d'avoir des amis.
Là, tu parles à du monde, c'est ça aussi.
Mais exact, le sport amateur, c'est ça. Il n'y a personne ici qui s'en va aux Olympiques. C'est peut-être quelques-uns. Fait que, tu sais, t'essaies d'avoir une vie, tu vois ta famille, tu vois ta blonde, tu vois tes amis, t'as une job à temps plein, puis en plus, tu veux t'entraîner. Tu sais, moi, je m'entraîne 8 à 12 heures semaine, mettons, dans les gros blocs. Mais tu sais, comment tu veux trouver l'équilibre si tu te mets super grosse pression comme ça. Fait que moi, j'essaie vraiment d'avoir de la flexibilité, puis j'y vais au feeling, puis j'ai vraiment du fun à faire ça.
Puis tu parlais du spectre jusqu'au... du procrastinateur en chef jusqu'au au TOC.
Ouais.
Quels sont les... Est-ce que t'as remarqué des tendances du procrastinateur en chef? Parce qu'il y en a qui nous écoutent qui sont peut-être parmi ceux-là, là.
On parle de quoi? Dans quel contexte? C'est-à-dire des tendances en lien avec quoi?
Des tendances en lien avec les blessures, en lien avec...
Non, ben en fait, c'est peut-être... Non, honnêtement, non. Mais je crois que la tendance qui pourrait être, c'est juste un désinvestissement dans le programme de réhabilitation qui mène à pas de résultats. Mm-hmm. Ça pourrait être ça. Mais à ce moment-là, je sais pas si c'est tant la procrastination versus une absence du clinicien physio à établir une très bonne source de motivation pour les gens. T'sais, moi, je me suis formé en motivation pour être capable d'avoir des meilleurs résultats en physio. Mm-hmm. Parce que c'est pas vrai que d'être physio, c'est assez de comprendre puis connaître les blessures. C'est même plus ça le défi clinique que j'ai à ce stade-ci de ma carrière.
C'est de faire adhérer
aux gens, puis c'est tous les autres facteurs. Fait que les facteurs autres qui n'ont pas rapport avec la mécanique, c'est de faire en sorte que ces facteurs-là soient pas des bâtons dans les roues pour que les gens puissent aller mieux.
Je comprends. C'était fascinant, man. Écoute, on va refaire ça, c'est sûr.
Ouais,
c'est sûr, parce que je pense qu'on a même pas abordé le début de tous les sujets qu'on pourrait aborder.
Ouais.
C'était vraiment, vraiment top. T'es vraiment bon à faire ça. Ça paraît que tu
fais ton podcast.
Exact, exact.
Ouais, ben tu sais, si les gens veulent en apprendre plus
ouais,
là-dessus, plein de sujets qu'on a abordés, j'ai déjà fait des épisodes là-dessus. Fait que tu sais, j'ai un épisode sur les blessures en course à pied avec Jean-François Escuyer que je parlais. J'ai un épisode sur la course avec Blaise Dubois. J'ai reçu David Jacquard. J'ai reçu François Raymond, qui est le copain de Ève Crépeau. Qui fait tout ce qui est préparation physique, musculation. J'ai reçu Nick Leduc Savard en nutrition du sport. Ouais. Fait que, bref, si les gens veulent écouter ça, c'est Parle-moi de santé sur toutes les plateformes où on écoute. Puis je suis aussi sur Instagram, Facebook, au même nom pour faire un petit peu de partage de connaissances puis de vulgarisation scientifique.
Très cool. Merci beaucoup, Ben.
Fait plaisir.
Ciao.